Où vivrons-nous demain ?
Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie, mode de vie. Bonjour à tous et à toutes, nous allons parler dans cette série d'émissions d'un sujet qui tient à cœur à tout le monde, qui est le sujet de cadre de vie, de là où nous habitons, de l'urbanisme, des territoires. Le titre que j'ai choisi, « Où vivrons-nous demain ?», est pris d'un ouvrage qui a été édité il y a déjà longtemps, en 1964, par un écrivain qui était à la fois critique d'art, poète, qui s'appelle Michel Aragon, qui est toujours vivant, qui a 95 ans, mais qui à son époque a été quelqu'un de très connu. Et il avait écrit cet ouvrage qui était une vision du monde futur. Alors ça, c'est l'exercice le plus difficile, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un demi-siècle, la vision que nous avions sur nos territoires, sur nos villes, était d'un très grand optimiste. Le monde que nous présentait Michel Aragon, avec des photos, des dessins, dont ce spécialiste de l'histoire de l'art, de l'architecture et de l'urbanisme, très pertinent sur tous ces sujets, il nous présentait une vision extrêmement optimiste qui est diamétralement opposée à ce que l'on entend aujourd'hui. Et c'est intéressant de confronter justement ces deux visions qui sont extrêmes et opposées. Je ne vais pas vous dire que je fais partie d'un camp ou de l'autre. Notre propos ici sera justement d'essayer de décoder avec le plus de raison, de rationalité, d'analyse, le futur. Alors le futur, ça peut être demain, parce que quand on pose la question « Où vivrons-nous demain ?», ça peut être aussi « Où vais-je vivre moi-même dans les étapes de la vie ?», mais ça peut être aussi un futur qui peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et on peut imaginer, il n'est pas interdit effectivement de réfléchir à une prospective beaucoup plus large. Alors, pour parler du futur, il est évident qu'il est intéressant aussi de savoir où l'on est. Et ça fait faire partie et d'être au centre de la réflexion que nous allons avoir ensemble, c'est ce rapport que nous avons au territoire et sur lequel on entend des choses totalement différente, souvent, comme je vous le disais à l'instant, assez angoissante. Et pour prévoir le monde de demain, il s'agit d'abord de savoir peut-être, en premier, quel est le monde d'aujourd'hui. Le premier paradoxe, c'est que nous sommes aujourd'hui informés d'une manière absolument extraordinaire, comme bien sûr nous ne l'avons jamais été dans le passé, mais surtout avec une accélération particulièrement impressionnante ces dernières années, c'est-à-dire une sorte de démocratisation par tous les réseaux sociaux. On a évidemment, tout le monde le sait, l'instantané des communications et des informations sur Google, mais la grande innovation, c'est les images satellites qui sont que l'on peut avoir sur son téléphone, sur son ordinateur, avec une précision absolument extraordinaire et qui nous permet aussi de comparer le monde d'aujourd'hui avec le monde d'hier, avec les cartes anciennes. Et ça, c'est quelque chose de totalement fascinant. Il faut rappeler qu'il n'y a pas encore bien longtemps, le seul fait d'essayer de comprendre quelle était la géographie de nos territoires, de nos villes, ça supposait des photos aériennes, des assemblages, le monopole de l'Institut Géographique National. Tout ça a été très cher, c'est demandé un travail de professionnel. Et aujourd'hui, cette démocratisation est un progrès immense. Alors ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que on n'a plus d'efforts à faire et on peut imaginer les temps où il n'y avait pas de vue aérienne, il n'y avait pas d'avion, même d'aérostat, et on avait des cartes, et nous avons des cartes anciennes, des relevés de grands territoires, des relevés de nos villes, qui sont d'une précision absolument étonnante. Donc, on supposait qu'il y avait un grand travail d'établissement de ces cartes et aussi des gens qui les lisaient. Et probablement, cet exercice manque. Et aujourd'hui, cette abondance d'informations faciles font que on entend des choses assez effarante et où personne ne prend la peine de vérifier la réalité. Je vais prendre un exemple que l'on vient d'entendre dans l'actualité immédiate. C'était la forêt amazonienne qui brûle. La forêt amazonienne qui brûle et il y a, et avec juste raison, le souci des Indiens autochtones qui vivent. Ils sont entre, on ne sait pas très bien, mais 80 000. Et donc, on a entendu d'une manière répétée sur les radios que la forêt amazonienne brûlant, il n'y aurait plus d'espace pour ces tribus indiennes. Alors, il faut rappeler que la forêt amazonienne fait la dimension de l'Europe. Donc, il y a 80 000 Indiens, même si la forêt, ce que je ne crois pas et ce que je ne souhaite pas, est brûlée en grande partie, ce qui est loin d'être la réalité, je pense qu'il y a de l'espace pour 80 000 personnes dans un territoire boisé aussi grand que l'Europe. Alors ça, c'est de l'histoire immédiate et qui ne nous concerne pas directement, mais on pourrait avoir aussi des exemples. Je vais en prendre un. On entend régulièrement que la France s'urbanise et que un territoire disparaît. Alors déjà, le mot disparaît est un mot assez surprenant parce que les départements ne disparaissent pas sous le béton et sous l'urbanisation. Ils se transforment, soit en mieux, soit en pire, mais on ne peut pas parler de disparition. Donc, pour revenir, on disait il y a encore pas très longtemps, c'était tous les 15 ans qu'un département disparaissait. Puis après, ça a été 10 ans, et aujourd'hui, nous sommes à 5 ans. Donc le rythme s'accélère, et donc depuis 50 ans, on aurait 10 départements français qui seraient bétonnés et qui auraient disparu sans aucune végétation. Bon, évidemment que si on prend les statistiques, et ça demande un travail, là aussi, c'est les grands progrès, c'est que les statistiques de l'INSEE sur l'urbanisation sont à la disposition de tout le monde et on peut comparer la progression de la forêt, par exemple, qui est continue et constante sur notre territoire national. On a aussi les changements de qualification entre des zones urbaines et qui deviennent boisées où il y a des changements d'affectation, en fait. Pour résumer, si on regarde les statistiques, on se rend compte qu'en fait, la France ne s'urbanise pas au mauvais sens du terme, comme on l'entend sous le béton, mais qu'on a une très grande stabilité, progression des forêts, l'agriculture perd un peu justement au détriment des forêts, mais la surface des villes ne grossit pas. Alors ça, c'est une introduction à notre propos et les premières émissions que je vais faire vont porter sur les centres-villes, qui est un sujet central, c'est bien le cas de le dire. C'est le mot qui est employé aujourd'hui, c'est le cœur des villes, les centres-villes, la vie dans les villes. Et il est intéressant d'analyser les politiques, de voir quelle est la réalité de ces centres-villes par rapport au territoire national, et également, et ça me semble aussi important, de voir quelle est l'origine de cette préoccupation qui me paraît aujourd'hui centrale sur les centres-villes qui sont à la fois parée de toutes les qualités, mais aussi de tous les défauts avec la pollution, mais aussi avec toute l'idée que c'est ces centres-villes qui tirent l'économie par le haut, qui sont mondialisés. Enfin, c'est un sujet central. Alors, revenons au terme centre-ville. Me semble-t-il que c'est un terme utilisé depuis assez peu de temps, puisque, par exemple, on va parler de notre bonne ville de Toulouse, et on disait, dans mon enfance, on disait « on va en ville ». Ça voulait dire, quand on habitait dans les faubourgs, on allait en ville, c'était une forme assez indistincte qui n'était pas prise entre les boulevards, mais qui était, disons, par rapport au quartier faubourg périphérique, la zone un peu plus centrale, entre guillemets, mais on ne pouvait pas distinguer les différents quartiers qui étaient les quartiers Saint-Georges, le quartier Saint-Étienne, le quartier Busca, des faubourgs de Saint-Cernin, d'Arnaud-Bernard, des Minimes. En fait, la transition n'était pas visible. Les caractéristiques de la voirie étaient les mêmes. Le tramway, à cette époque-là, était sur les faubourgs également. Donc, on n'avait pas non plus les zones bleues et toutes les caractéristiques qui distinguent ce que l'on appelle donc cet écusson centre-ville. On ne le distinguait pas des autres quartiers. La ville de Toulouse était constituée de différents quartiers, avec effectivement des histoires différentes, mais on ne pouvait pas parler d'un centre avec tout autour une périphérie, puisque c'est aujourd'hui les termes qui sont employés à la mode, c'est les villes et leurs périphéries, les centres et leurs périphéries. Donc on n'était pas dans cette position de centralité. Alors la notion de centre est d'ailleurs quelque chose d'assez surprenant et quand on a par exemple des projets d'architecture, on dessine une place, on dessine un élément central. C'est-à-dire qu'en fait, on a un grand vide. C'est d'ailleurs le plan des Bastides, mais les Bastides, ne l'oublions pas, étaient, comme les villes romaines, étaient des camps militaires et qui étaient dessinés d'une manière géométrique et militaire et n'avaient rien à voir avec la croissance de nos villes qui est faite d'ajouts différents. Donc on est dans un rapport totalement différent. Mais cette idée de centre n'était pas dans le passé du tout ce que l'on croit. Alors revenons en arrière, donc je vous avais parlé que nous allons parler de demain, mais nous allons parler aussi d'hier pour revenir à cette notion de centre. Le forum, par exemple, le mot forum ne veut pas dire le centre, mais veut dire au contraire dehors. Et le forum romain était aux portes de Rome, comme l'agora romain et comme l'agora grecque, excusez-moi, était aux portes d'Athènes. Et ce qui était le même à peu près dans toutes les villes, et les villes avaient leurs entrées qui étaient les endroits les plus actifs. Donc il y avait à Toulouse la Porte Narbonnaise, il y avait à l'opposé le chemin de Saint-Jacques avec la basilique et tout son accueil autour de Saint-Cernin, et la façade sur la Garonne était la façade des grandes activités. Du moulin du Bazacle, et on a encore aujourd'hui tous ces noms de rues, de rues des menuisiers, rues des tourneurs, tous les métiers, tous les filatiers, tous les métiers qui montraient que cette partie qui aujourd'hui est résidentielle, en partie, était une partie extrêmement vivante et animée, et que la ville n'était pas au centre, mais que la ville était au contraire se développer en activité sur ses franges, et c'était ces franges qui étaient en relation dynamique avec l'extérieur. C'était les portes et non pas le centre. Nous allons faire une petite pause musicale avec Naïma de John Coltrane. Thank you. Oui, nous revenons donc au centre-ville dans notre émission « Ouvrirons-nous demain ?». J'étais en train de vous dire que le centre n'est pas au centre et que l'expression aujourd'hui, qui est une expression physiologique de le cœur des villes, bon, ça fait partie des métaphores, mais qui sont assez dangereuses parce que elles sont aussi datées d'une époque où l'on croyait que le cœur était le centre des émotions. Et en fait, le cœur, on le sait aujourd'hui, est une pompe et que le centre des émotions n'est plus au cœur, mais c'est le cerveau. Et le cerveau, est justement, il est en périphérie du corps et il n'est pas au centre. Alors, c'est une réflexion qui me paraît assez essentielle parce que le fait d'avoir des opérations d'architecture aujourd'hui où on recrée des centres comme on pense le faire dans une continuité historique et que en réalité ce n'est pas du tout ça, c'est une invention tout à fait récente et que la réalité justement des quartiers et des villes était d'avoir sur leur frange les éléments de raccord et les éléments d'ouverture et de centralité. Là aussi on est dans une symbolique qui est assez forte parce que c'est l'ouverture, c'est la porte et c'est non pas quelque chose qui est à l'intérieur. Alors ce qui est surprenant, c'est que on va prendre des exemples récents sur nos opérations toulousaines, mais c'est le cas dans toutes les villes, mais bon, ça parle plus aux Toulousains, c'est que on a par exemple la place Occitane qui a été fait sur le même principe de prendre un quartier qui a été démoli et on refait une place au centre. On a redémoli cette place il y a quelques années et la place est aussi triste par rapport à d'autres places comme la place Saint-Pierre, par exemple, ou la place Lucelin, qui sont aux franges et beaucoup plus dynamiques et festifs. Alors, on peut prendre aussi la place de Bologne, qui était un échec et qui est aujourd'hui fermée, mais la place de l'Europe, la place Alphonse Jourdain. Enfin, on a toute une série d'opérations d'urbanisme contemporain, où on a créé des places au centre d'un quartier, et ces places piétonnes sont des lieux déserts, et quand ils sont tristes, c'est mieux, et quand ils sont dangereux, c'est encore pire. Donc, vous voyez que le propos sur le centre n'est pas innocent parce que on est confronté à toute une série d'erreurs par rapport à une analyse historique qui est fausse. Alors, la question que l'on pourrait se poser par rapport à cela, c'est mais de quand date cette vision du centre-ville ? Alors, je vais vous donner mon explication par rapport à cela. On va revenir avant la période de 1968, où, justement, on parlait du livre de Michel Ragon et de sa vision optimiste qui était dans un avenir radieux, je vous disais optimiste, mais qui était aussi basé sur la raison, basé sur la technique, basé sur la science, et où on n'avait aucun doute d'avoir un avenir meilleur. Donc, on n'était pas du tout dans une inquiétude, mais on était dans ce support technique et scientifique, et qui était donc, on peut dire, qui a duré jusqu'à peu près à cette période de 1968. Alors que se passait-il en 1968 ? En 68, il y a donc une révolte étudiante sur des motifs assez mineurs de dortoirs, de filles à Nanterre, enfin des choses assez secondaires, et qui progressivement devient une crise et une sorte de mini-révolution au niveau national. Alors, pour revenir à notre sujet de l'architecture, et les écoles d'architecture ont été un des ferments très importants, notamment l'école des Beaux-Arts de Paris, de cette révolte étudiante. Et on pouvait comprendre qu'à ce moment-là, il y avait un enseignement qui était des générations d'avant, qui était, alors à la fois il y avait l'enseignement académique et puis il y avait aussi un enseignement de notre académisme qui était le mouvement moderne qui datait de l'avant-guerre, des années 30, des années 20. Et on a un changement générationnel de la génération des baby-boomers qui veulent changer le monde et prendre le pouvoir. Alors, on va parler du phénomène français et de sa traduction dans justement notre histoire des centres-villes. Et nous avons une volonté de mettre à bas l'ordre existant qui était la ville moderne, qui était celle du mouvement moderne. Je résume. Le mouvement moderne conserve la ville ancienne et veut construire des villes nouvelles. C'est tout le livre dont je vous parlais, Où vivrons-nous demain ? Alors, il y a toutes les possibilités, des villes qui vont être sous des grands dômes, protégées des intempéries. Il va y avoir des villes qui vont être enterrées, des villes qui vont être suspendues, des villes qui vont être flottantes. Bon, l'imagination était très vaste, mais le principe était toujours le même. Il s'agissait de faire des villes nouvelles. Donc, il ne s'agissait pas de revenir à la ville ancienne, qui était le passé et qu'on laissait telle qu'elle était dans une sorte de tranquillité patrimoniale. Alors, il est évident que les révolutions, c'est toujours problématique parce qu'on sait ce que l'on met là-bas, mais on a toujours des difficultés pour trouver quelque chose de nouveau. Et dans le cas présent, cette génération qui est la mienne avait du mal à trouver un changement justement avec le mouvement moderne qui était lui justement celui du progressisme et de la science. Au même moment, alors c'était extrêmement curieux sur un plan politique parce qu'il y avait donc tout cet agitement qui était, on peut dire, gauchiste, communiste, et il y avait au même moment aussi un retour de l'extrême droite théorique avec des mouvements qui s'appelaient le Grèce, le Club de l'Horloge, et qui avaient un revivalisme sur la ville européenne qui était chargé de toutes les valeurs de la civilisation européenne. Et là, par une sorte de curieux amalgame entre l'extrême gauche et l'extrême droite, on a tout d'un coup, avec un penseur marxiste qui s'appelle Henri Lefebvre, qui écrit un livre, Le droit à la ville, où on sacralise la ville ancienne comme une sorte de modèle idéal de vivre ensemble, de la société égalitaire, de la société dont la gauche rêvait. Alors, il est évident que il s'agit totalement d'une imposture historique. La ville ancienne n'était pas du tout, à part peut-être certains villages, mais les grandes villes étaient les territoires justement de la ségrégation sociale et avec les riches qui avaient des demeures importantes, les pauvres qui habitaient dans des soupentes ou qui habitaient près des chevaux dans les écuries. Enfin, c'était pas du tout un modèle de convivialité et, pour parler du vocabulaire aujourd'hui, de mixité ni de vivre ensemble. Mais peu importe, on veut créer ce modèle-là. Donc, on crie haro, évidemment, sur les grands ensembles qui sont une sorte de modèle un peu déchu de la ville idéale moderne. Mais néanmoins, on a donc comme seul modèle de remplacement la ville ancienne. Alors, on crée donc cette notion de centre-ville et on va, à partir de cela, faire un dessin sur les villes et on va choisir quel va être ce cœur de ville qui va être l'objet de tous les soins. On va y mettre les nouveaux bâtiments, on va mettre des nouveaux bâtiments de culture, on va avoir un changement de population rapidement. On peut aussi dire que cette ville ancienne va profiter à cette même génération qui va, sous le prétexte d'habiter avec le peuple, pouvoir investir ces lieux et aussi faire des bonnes opérations de spéculation. Bon, je suis un peu méchant, mais je pense que c'est la réalité que tout le monde vit dans toutes les villes françaises et évidemment à Paris d'une manière absolument incroyable, puisque le mètre carré aujourd'hui est atteint de 10 et 15 000 euros en moyenne à l'achat. Donc nous avons le centre-ville qui devient le modèle. Donc on va à partir de cela, abandonner la notion de ville nouvelle, la notion de construire d'une nouvelle ville, et nous sommes depuis donc 50 ans dans le même processus où la croissance urbaine est appelée étalement d'une manière totalement négative. Et on a comme credo de construire la ville sur la ville, parce que l'on dit que la ville, c'est toujours construite sur la ville. Alors là, je vais aussi marquer un désaccord avec cela. La ville ne s'est pas construite sur la ville par démolition. Il y a eu, par exemple, le grand incendie à Toulouse en 1464, je pense, et qui a fait que la ville qui était faite en la ville médiévale qui était faite en torchis, c'est-à-dire avec de la terre et du bois qui avait brûlé, on l'a obligé à devenir en briques. Mais vous savez que le bâti ancien toulousain, à la fois les caves et les murs de refond, c'est-à-dire les murs qui sont entre les bâtiments, dans le centre-ville, énormément de murs anciens sont conservés et nous avons la structure de la ville médiévale. Et si vous regardez les plans anciens de la ville médiévale, et c'est assez proche en volume, en hauteur, à la ville actuelle. Donc, et que la croissance de la ville s'est faite par les faubourgs, s'est faite par addition de quartiers, mais il n'y a pas eu ces démolitions. Alors on me dira, oui, mais Haussmann, il a bien démoli la ville ancienne. Il a démoli la ville ancienne, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait un Paris médiéval insalubre qui a été en grande partie démoli, mais il ne l'a pas démoli pour le densifier, il a démoli pour dédensifier. On a créé des parcs, des jardins, des larges avenues qui donnaient de la lumière, et la hauteur n'a pas non plus... Il n'y avait pas d'ascenseur, donc on n'avait pas une hauteur différente. On peut dire que on a eu des transferts de population. La population des ouvriers a été boutée hors de Paris et on a eu un embourgeoisement de la capitale, mais on n'a pas eu une densification. Donc, tout cela est important parce que on se rend compte que l'emploi des mots cœur de ville, l'emploi des mots étalement urbain et aussi des notions aussi erronées que la ville s'est toujours construite sur la ville sont des fantaisies historiques et n'ont aucune réalité, donc nous donnent une fausse image du passé et nous donnent des règles qui sont altérés, qui sont, je pense, toxiques, pour avoir une vision sereine de notre présent et de ce fait, pour revenir au thème de notre émission, de ce fait, une vision qui n'est pas très heureuse pour le « où vivrons-nous demain ?» C'était « Où vivrons-nous demain ?» par Jean-Pierre Estrampe. Merci à Hugo Pipitone qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à tous et à toutes et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de « Où vivrons-nous demain ?»